Ben, c'est ton moment de revue de presse.
Oui.
Tu revises quoi?
Écoute, on commence par une mauvaise nouvelle.
Oh oh.
C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne avec des résultats assez décevants. Un employeur sur quatre hésiterait à embaucher une personne en situation de handicap. Hésiterait ou même n'embaucherait pas.
Mais j'aime l'honnêteté, par exemple. J'aime parce que c'est dit.
Et ensuite, on a interrogé des représentants de divers organismes pour commenter les résultats, dont un James Taylor, qui avait sûrement He's got a friend.
Oui, bien, j'ai posé, mais...
qui a affirmé que pourtant, premièrement, c'est pas... C'est parce que peut-être il y a une méconnaissance de ce que ça prend comme accommodement, parce que, comme il dit, c'est pas si compliqué qu'on puisse le penser, peut-être... Et il y a aussi parce que je pense qu'il y avait des gestionnaires au niveau public qui avaient été interrogés dans ce sondage-là. Donc, l'avocate Maria Chadwick, elle travaille justement pour une firme d'avocats qui défend des causes de discrimination. Elle dit qu'il y a une lacune dans la formation carrément des gestionnaires, notamment dans la fonction publique, parce qu'ils ignorent carrément leurs obligations légales d'équité et que ça devrait faire partie de leur formation à leur embauche.
Donc, c'est 25% hésiteraient.
C'est 25... Le pourcentage pour hésiter était plus grand que ça. 25%, c'est... N'embaucherait pas.
Ou
pense que la personne ne serait pas capable de faire le genre d'emploi qu'ils ont.
Je trouvais que c'était faible, 25%. Mais là, si on ajoute l'hésitation, puis on va peut-être au-dessus de 30-35%.
C'est des personnes disent soit, moi, je pense pas qu'ils seraient capables, ou des choses comme ça.
Puis, quand tu as ta binerie, c'est peut-être un petit peu plus précaire, donc t'hésites un peu plus que quand t'es à la tête comme directeur des ressources humaines d'une multinationale où finalement un employé parmi 2826, tu y penses moins. Mais quand c'est 1 sur 7 et que c'est ton restaurant, puis la personne est en fauteuil, puis qu'elle doit servir, là je mets ça gros là,
oui.
mais on peut comprendre.
Oui, mais il y a sûrement aussi des personnes qui pensent que les accommodements seraient compliqués, seraient coûteux.
Ouais. Et à quand le premier serveur en fauteuil roulant? Moi, je veux voir ça. Sinon,
il y a le site handicap.fr qui s'est entretenu avec Sylvie Guillaume, qui est vice-présidente du Parlement européen, afin de parler d'inclusion, autant du côté de la députation que de l'accès au vote. Alors, parmi les questions qu'ils ont posées, mais tout d'abord, ils ont demandé, sur les 751 députés européens qui siègent au Parlement, combien sont manifestement en situation de handicap? La réponse, c'est 6.
Oh.
6 collègues présentant des handicaps qui nécessitent une aide humaine importante. Certains sont en fauteuil roulant, d'autres sourds, comme les députés hongrois Adam Kossa et la Belge Helga Stevens. Et il y a aussi des personnes aveugles. Mais comme dans toute collectivité, elle suppose qu'il y a peut-être des handicaps invisibles que les personnes ont préféré ne pas révéler.
Ouais.
On s'informait s'ils avaient un budget qui leur est alloué. Oui, ils ont environ 10 000 euros chacun, notamment pour financer des interprètes en langue des signes qui doivent parfois même voyager avec eux et pour faire différentes adaptations de bureaux, des choses comme ça. Et ils en ont profité aussi pour parler d'accessibilité du vote pour les élections européennes. Mm-hmm. Notamment, Sophie Cluzel, en France, a annoncé le droit de vote pour tous sans restriction récemment. Mais comment le Parlement...
C'était comment avant?
on parle notamment des personnes handicapées placées sous tutelle.
OK.
Mais on demande donc comment le Parlement compte-t-il se mobiliser pour que tout le monde puisse accéder aux urnes, aux élections européennes. Et c'est compliqué justement parce que le Parlement européen n'est pas en situation de contraindre les États membres à réaliser l'accessibilité des bureaux de vote. Il peut le suggérer fortement, il peut faire des campagnes de sensibilisation, mais il n'a pas de pouvoir sur les États.
C'est comme leur problème d'arrondissement, là.
Oui, un peu. Oui,
OK.
Et toute petite nouvelle, mais si tu vas voir du soccer ou du football au Standard de Liège, il y a de la description.
Ah oui?
Oui.
OK.
Depuis 10 ans, le speaker officiel Jacques Massard, accompagné de Jean-Marc Stril et Jean-Michel Modolo commentent les matchs en audio-description.
Alors, ça, c'est intéressant. Mais en même temps, quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui, normalement, est là pour peindre les images à la radio? Parce que, oui, il y a la description du jeu, mais t'es supposé quand même, à la radio, de mettre de la couleur, de mettre... C'est intéressant
eux
de voir ce qu'ils font.
Eux disent qu'ils en mettent davantage de la couleur que dans les descriptions standards. Et aussi, ils ont comme un système où le terrain est divisé en zones.
Ah, ah.
L'idée est de permettre pas seulement aux gens qui sont très, très mordus et donc qui connaissent toutes les règles sur le bout de leurs doigts de comprendre la description, mais à l'auditeur lambda, comme ils disent, de pouvoir comprendre et s'enthousiasmer aussi.
Est-ce que c'est uniquement pour les partisans qui sont au stade ou on pourrait peut-être même avoir accès à cette diffusion-là?
L'article ne mentionnait que le stade, mais il mentionnait justement que ils ont deux très jeunes supporters dans les tribunes dont les parents venaient déjà au stade. Et grâce à l'audiodescription, ils viennent maintenant en famille.
Ben, vous imaginez quand même faire ce service-là pour deux personnes, ou même s'il y en avait 7 ou 8, et c'est ça que j'aime, c'est peu importe combien de personnes, l'idée c'est d'offrir un choix équitable, une opportunité la plus proche possible de celui ou celle qui voit l'action.
Oui, tout à fait.
Je vous mets tout de suite sur le cas, là. Si jamais il y a un lien, vous mettez ça sur la page web. Et vous envoyez ça dans le courriel de Luc Fortin.
D'accord.
Yeah. D'ailleurs, la saison de l'Impact, qui commence samedi.
Bon, on pourrait faire des pressions.
22h. Oh, écoutez, là, je fais des pressions pour l'application puis le site web.
Est-ce qu'on reçoit M. Saputo en entrevue la semaine prochaine?
Monsieur Saputo a pris du recul. Il a changé, là. Oh. Mais,
on voit ici qu'on a des connexions.
Non, ils ont fait une conférence de presse et tout, là. C'est Kevin Gilmore, maintenant, qui est le président de l'équipe, mais ça reste... Beaucoup de gens se disent, ouais, mais comme c'est pas lui qui met l'argent, est-ce qu'il va avoir les coups des franches, ou c'est Saputo qui va lui dire quoi faire? Madame Campagnat.
Monsieur Fortin.
Avant d'aller en Estrie pour parler d'eux, O-E-U-F-S, allons en Estrie ou ailleurs, pour profiter de la nature.
Oui, dernièrement, le site de la CEPAC proposait 7 sorties hivernales simples et sans tracas pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu veux...
Sans tracas. Okay.
On précise quand même d'aller, parce que ça peut varier, la mobilité, d'aller consulter la description
L'évaluation
des attractions.
L'évaluation qui roule.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, on vous invite au parc national d'Oka, où il est possible d'emprunter gratuitement un fauteuil roulant tout-terrain Hippocampe ou le Skivel, qui est un équipement qui s'adapte au fauteuil roulant et permet de circuler sur les sentiers enneigés. On vous propose d'aller à l'Aquarium de Québec, qui est un endroit accessible. Okay. On propose plusieurs destinations où les randonnées pédestres hivernales sont accessibles donc aux personnes à mobilité réduite, au Parc du Bic, aux îles de Boucherville, au Mont Hufford, au Mont Saint-Bruno, au Mont Tremblant et à Oka. Et donc, on est doté là-bas de Skivel. On nous propose...
Mais ça, j'aime bien, par exemple, parce que c'est vrai que c'est plaisant de marcher dans les bois l'hiver, mais souvent, la neige est folle. Donc, des sentiers pédestres balisés, ça me déplaît pas du tout.
Oui, c'est vraiment une option très intéressante. Oui. Alors, on a aussi proposé l'Auberge du Chênet parce que tout est sur le même site. Donc, c'est une auberge qui propose un bistrot-bar qui s'appelle le Quatre Temps, qui est accessible par ascenseur et qui fait honneur au terroir québécois.
Bon.
On propose d'aller visiter...
C'est où ça, du Chênet?
Ça donne sur le lac Saint-Joseph. Tout ce que je peux te dire.
Jean-Sébastien, trouvez-nous ça, là, du Chênet.
I'm on it.
Merci beaucoup.
On propose d'aller emprunter le téléphérique au parc de la chute Montmorency, qui devient un pain de sucre lorsque la chute est gelée.
C'est joli.
Oui. On propose d'aller au gîte du Mont-Albert, qui propose une magnifique auberge classée 4 étoiles avec tout le confort. Et on propose aussi une pause au bar du gîte. Encore une fois, l'établissement est complètement accessible. Et enfin, on propose d'aller faire un tour au parc national du Mont-Mégantic.
OK.
Parce que pour aller admirer le ciel étoilé.
Mais même si, quand c'est rendu qu'il y a des auberges accessibles au Mont-Albert, là, c'est parce qu'on, tranquillement, là, on s'organise. Parce que c'est pas à porte, là. En tout cas, pour nous, ici à Montréal, c'est pas à porte. Jean-Sébastien, est-ce qu'on a trouvé où est situé du Chênet?
On a trouvé, oui. C'est à 30 minutes environ de Québec. Okay. C'est pas loin de Saint-Raymond, un petit peu au nord de Pont-Rouge, donc sur la carte...
Dans Pont-Neuf. Je pense.
Un petit peu plus au nord-est de Portneuf, au nord de Pont-Rouge et au nord-ouest de Québec.
Ben, merci beaucoup, on n'ira pas pareil.
Il y a beaucoup de neige par là ces temps-ci. Oui, là, on voit des photos, les bas de neige dépassent presque les maisons.